enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Sa puissance est telle que des hommes sont morts pour le protéger. Certains sont même prêts à tuer pour le découvrir. C'est un message qui a été caché pendant des siècles. Juste sous vos yeux. Ce que vous croyez, l'aventure ne fait que commencer.
Vous savez quoi, hein? Oubliez ce que vous avez lu. Oubliez ce que vous croyez, l'aventure ne fait que commencer. Attachez bien vos ceintures. Maintenant, regarde la bande-annonce.
Vous et moi, Robert, nous avons été les témoins de l'histoire. Nous sommes désormais entrés dans l'histoire. Nous sommes au cœur d'une guerre, sans fin. Pour protéger un secret redoutable qui pourrait, s'il était révélé, anéantir jusqu'au fondement même de l'humanité.
Je suis confronté à quelque chose qui dépasse mon entendement.
Découvrez le secret le mieux gardé de l'histoire de l'humanité.
La bande-annonce nous dit de chercher la vérité. C'est ce qu'on veut faire, hein? Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que les Français ont pensé du film? Oui. Vous excuserez leur accent français. On a ça. Ils l'ont passé au Festival de Cannes. Et juste la soirée de du passage du film au Festival de Cannes, on a quelques réactions. Si vous avez lu les journaux, ou si vous avez entendu peut-être aux informations, les Français n'ont pas bien aimé. Hein. Je pense même les journalistes ont... Enfin, on va les écouter. Excusez leur accent français, hein, c'est pas de leur faute, ils viennent de Cannes. Ils sont juste au bord de la mer où il y a des palmiers et puis il fait chaud, quoi.
Découvrez le secret le mieux gardé de l'histoire de l'humanité.
Un film extraordinaire. La seule chose, c'est de savoir si c'est la vérité ou pas.
L'histoire était belle. Je pense que c'est un peu de fiction, mais c'était très bien.
Honnêtement, j'ai trouvé ça très mauvais.
Écoutez, c'était un très beau film. Le début un peu moins bien que la fin. J'avoue que au début, j'ai eu du mal à accrocher.
Vous n'êtes pas un lecteur du livre?
Si, j'ai lu le livre. Et le livre, j'ai aussi eu du mal à accrocher. Mais je m'accroche, vous voyez, je l'ai deux fois.
Ça reflétait bien le bouquin. Moi, j'ai assez retrouvé le livre, oui.
Quand même, c'est mieux le livre.
Oui, mais étant donné que j'ai lu le livre, alors je suis très déçue.
Pourquoi donc?
C'est un fougi, un fatras, et ça donne mal à la tête.
Un petit peu ennuyeux. Je me dirais que ça, c'est un petit peu ennuyeux. Je n'ai pas lu le livre, mais je ne regrette pas.
Bah, apparemment, il faut avoir lu le livre avant. Donc, comme je ne l'ai pas lu, j'ai compris deux, trois trucs, mais je suis plus Mission Impossible au camping, quoi.
Bien, un petit peu long. Un petit peu long. J'ai trouvé le livre un peu long et le film un peu long. Mais bien, non, je n'ai pas été déçue. Par rapport à tout ce qu'on en a dit, j'ai trouvé que c'était plutôt bien.
Ben, j'avais entendu de très mauvaises critiques ce matin, je suis plutôt agréablement surpris ce soir.
Ouais, la presse hier a été assez mécontente, semble-t-il, et nous on est assez satisfaits, oui. Mais il faut le voir comme un bon film, il ne faut pas trop se prendre la tête.
Et en plus, un bon jeu d'acteur, une musique intéressante, et surtout là, le jeu de Tom Hanks et de Toutou, je crois qu'ils sont assez bons, voilà.
Enfin, moi j'ai trouvé un jeu d'acteur formidable et Audrey Tautou extraordinaire.
Même des profanes hein, qui ne croient pas trop, il n'y a pas d'affaire de religion. Déjà, ils disent, est-ce que c'est la vérité? C'est quoi cette affaire? Et ils étaient un peu perplexes. On disait ce matin qu'il y avait plusieurs erreurs qui étaient dans le code Da Vinci. Je propose d'écouter une experte en œuvre d'art qui va nous faire visiter un peu Paris, le Louvre, et qui va nous juste relever quelques erreurs. Alors, ce n'est pas évidemment toutes les erreurs du livre, mais c'est juste quelques-unes qui vont nous être présentées maintenant à titre d'exemple.
A mis en place une sorte d'œuvre d'art conceptuel qui consiste en plus d'une centaine de petits médaillons métalliques qui sont tous positionnés sur le méridien de Paris. Alors voici le plan du Louvre. L'escalier d'Aru, où nous trouvions il y a un instant, est ici. Donc c'est là que se trouve l'un des deux médaillons de Dibets qui se trouve à l'intérieur du musée. Un autre médaillon se trouve dans le passage Richelieu, c'est-à-dire dans ces parages-ci. Donc si on trace une ligne entre ces deux médaillons, le méridien de Paris, à travers le Louvre, passe selon cet axe à peu près. Or, Dan Brown, lui, préfère le faire passer par la pyramide inversée, qui se trouve à peu près ici, au centre de la cour. Donc si je trace le méridien de Paris, selon Dan Brown, je n'ai plus cet axe-ci, mais cet axe-ci. Voilà, tout le roman de Dan Brown est basé sur ce genre de décalage.
Alors, nous voici dans le transept de l'église Saint-Sulpice. Derrière moi se trouve la base de l'obélisque du gnomon de Saint-Sulpice. Cet obélisque, comme vous le voyez, est traversé de bas en haut par une ligne métallique qui ensuite se poursuit sur le sol de l'église et la traverse tout entière. Cette ligne est strictement orientée nord-sud et appartient en fait à un instrument astronomique, le fameux gnomon, qui a été installé dans l'église au XVIIIe siècle et qui n'est en rien le reste d'une croyance ésotérique ou de l'historicité païenne de l'église. À midi, tous les jours, le soleil traversant les verrières de l'église tombe sur la ligne métallique du gnomon à un endroit différent chaque jour, manifestant donc l'avancée du soleil dans son cycle annuel. Donc cette installation a été faite afin de faire des observations scientifiques et donc on n'est pas du tout dans un contexte spirituel ou religieux. Le curé de Saint-Sulpice a eu beaucoup à pâtir de l'engouement du public pour son église à partir de l'apparition du livre et surtout de l'engouement pour les erreurs qui avaient été commises dans le livre. Donc, à côté du gnomon, sur un petit présentoir, il propose des feuillets comme ceci, que l'on peut emmener, et sur lequel il rectifie un par un tous les points que le livre, en fait, a mis un petit peu en doute. Et donc, il explique notamment que cette ligne nord-sud qui traverse l'église Saint-Sulpice est effectivement parfaitement orientée, mais qu'elle n'est pas pour autant le méridien de Paris, lequel ne passe pas par Saint-Sulpice, il passe quelques mètres plus à l'ouest de Saint-Sulpice, donc on est toujours dans ce fameux décalage de Dan Brown, à quelques mètres entre la fiction et la réalité. À Saint-Sulpice, lorsqu'on se trouve dans le transept, on peut observer au-dessus de chacune des deux portes un vitrail circulaire au centre duquel il y a deux lettres. Ces lettres sont P et S. Dan Brown suggère que ces deux lettres sont le signe du prieuré des Fions. En fait, plus simplement, le P et le S évoquent les prénoms des deux saints, Pierre et Sulpice, au vocable duquel est cette église.
C'est juste quelques points d'exemple qui nous montrent en fait, comme le dit si bien, le décalage, pas grand-chose, mais un petit décalage entre la réalité et la fiction. On arrange un petit peu la réalité pour que ça puisse coller davantage à la fiction. Et le point clé, évidemment, c'est Marie-Madeleine. Et on va parler un peu de Marie-Madeleine ce soir et rentrer plus en détail. Selon le code Da Vinci, selon Dan Brown, Marie-Madeleine est donc l'épouse de Christ. Et non seulement elle est l'épouse de Christ, mais elle est la mère de la lignée de Jésus, à savoir leur première fille, Sarah. D'ailleurs, d'autres légendes ont dit qu'il y a eu un fils aussi après. Maintenant, vous avez déjà entendu parler du Graal? Les chevaliers de la table ronde qui vont chercher le Graal. Le Graal, c'est la fameuse coupe dans laquelle Jésus a pris la première Eucharistie avec ses disciples, la Sainte Cène, et ce serait dans cette même coupe que Simon d'Arimathée va recueillir le sang de Jésus. Et donc, dans ce Saint Graal que les chevaliers de la table ronde vont chercher, puis vont protéger, il y aurait le sang de Jésus. Vous connaissez, on parlait ce matin de Indiana Jones et la dernière croisade, qui était à la poursuite du Saint Graal. Le Saint Graal fait son apparition à peu près à l'époque, ben justement, de la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Avant, on n'en parlait pas. Maintenant, le Saint Graal, dans la logique de Dan Brown, c'est sang réel, c'est-à-dire sang royal. Donc le Saint Graal, c'est le sang royal. Mais vu que Marie-Madeleine, c'est l'épouse de Christ, et elle a le sang, et elle est, d'après le livre aussi, elle-même, une princesse issue de la lignée de David et de Salomon, eh bien le sang royal, c'est le sang de Marie-Madeleine. Et donc, le Saint Graal, c'est Marie-Madeleine. Pourquoi chercher une coupe alors que le Saint Graal, c'est Marie-Madeleine? Je vous propose un extrait du film où, justement, le grand savant, à savoir l'historien en chef de la reine d'Angleterre, c'est pas rien ça, Sir Leigh Teabing, qui est dans le roman, l'historien de la reine d'Angleterre. Quoi de plus sérieux que l'historien de la reine d'Angleterre? Non, c'est pas sérieux? L'historien de la reine d'Angleterre, c'est lui-même donc qui va révéler à la jeune Sophie la présence du Saint Graal. Écoutez.
Ma chère, voulez-vous fermer les yeux?
Épargnez-nous vos tours de passe-passe.
Vous avez requis mon aide, si je ne m'abuse. Vous céderez bien aux caprices d'un vieillard. Bien, chère demoiselle, où Jésus est-il assis?
Au milieu.
Bien, lui et ses disciples rompent le pain et ils boivent...
Du vin? Bois du vin.
Et pas tant. Et une ultime question. Combien de verres de vin voit-on sur la table?
Un seul? Le Saint Graal?
Ouvrez les yeux. Point de coupe unique. Point de calice. Passablement étrange, n'est-ce pas? Sachant que la Bible et la légende consacrée du Graal glorifient unanimement cet instant comme celui de l'arrivée du Saint Graal.
Il a l'air content de lui, de cette révélation passablement étrange. Le Saint Graal n'est pas sur la scène de Léonard de Vinci. On peut regarder avec le diaporama. Dans la scène de Leonardo de Vinci, de Léonard de Vinci, la scène qui représente donc cette table avec les Jésus et ses 12 disciples. Donc ça, c'est Leonardo de Vinci. Et la Joconde, c'est la diapo d'après. Donc dans la scène de Leonardo de Vinci, on a donc Jésus et les 12 disciples. Et puis, en fait, le savant nous dit, il n'y a pas le fameux calice, il n'y a pas le Saint Graal. Et la grande révélation, c'est qu'en fait, le Saint Graal, ce n'est pas une coupe, c'est Marie-Madeleine. Et la grande démonstration, c'est que si vous regardez bien le calice, vous le voyez. Le calice, c'est une coupe comme un V. Je pense que j'ai dessiné les traits. Si tu appuies sur la flèche. Oui, c'est la fois d'après. C'est la diapo d'après, celle-là. On va revenir en arrière après. C'est bon? Allô? Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous le voyez, le V? Tu peux revenir en arrière aussi, si tu veux. Voilà. Vous voyez, juste le dessin nous montre que là, il y a un V. Vous ne l'aviez pas vu? C'est un code qui est secret dans le tableau de Léonard de Vinci. Et ce V, vous le voyez là, le V, on peut le redessiner avec les traits blancs. Ce V, c'est le calice, qui est le divin sacré, et qui va même, ils vont même jusqu'à dire, c'est forcément la femme, à savoir Marie-Madeleine, et ce V-là même va jusqu'à faire une connotation, même à l'utérus, pour dire que c'est vraiment la femme, là. C'est le divin sacré, le V, c'est ce qu'ils disent. Vous ne l'aviez pas vu dans le tableau, mais si on regarde la diapo d'après, tout est clair, il y a un M dans la scène de Leonardo de Vinci. Un M comme Marie-Madeleine. Est-ce que vous le voyez, ce M? Si vous regardez la ligne du fond, vous voyez là? Là? Vous voyez? Et puis là, vous avez le M. C'est évident! Et si Léonard a mis un M comme ça, c'est pour dire Marie-Madeleine. Fallait y penser. Donc c'est sur des codes comme ça que se base toute la théorie, toute la fiction, toute l'histoire du Da Vinci. Le Da Vinci Code, c'est donc le code de Leonardo de Vinci. Et donc vous voyez que dans le code là qu'on a déjà décrypté, on a vu ce V qui est donc le calice, qui dit il y a le Saint Graal dans le tableau. Et le Saint Graal, on va le voir, c'est Marie-Madeleine, et c'est prouvé
et ça saute aux yeux, puisqu'il y a un M dans le tableau. Si on revient à la diapo de tout à l'heure, là, ça doit être la troisième, on va dire, oui, mais il n'y a pas de Marie-Madeleine dans ce tableau. C'est Jésus et ses 12 disciples, non? Si vous regardez le disciple, donc celui-là, c'est le disciple qui est à gauche de Jésus, juste à sa droite, pardon. C'est à gauche pour nous, mais c'est à la droite de Jésus. Ce disciple qu'on a l'habitude d'appeler Jean, en fait, si vous regardez bien, c'est pas Jean, c'est une femme. C'est pas une femme? C'est ce que vont dire les experts. Enfin, en regardant d'un peu plus près, il y en a qui vont dire, oui, mais cette femme, elle a un peu de barbe, un peu de duvet. Ils vont dire, oui, mais c'est normal, parce qu'il ne voulait pas trop choquer, il a fait une femme qui ressemblait à un homme. Il n'a pas fait un homme qui ressemblait à une femme, mais il a fait une femme qui ressemblait à un homme avec un peu de duvet. Bon, évidemment, là, c'est pas très net, mais il faut y aller à la loupe pour voir que oui, elle a un peu de duvet. Puis alors, c'est qui ce personnage qui est juste à côté, là? C'est Pierre, Saint-Pierre. Et certains vont dire que la main que Pierre met là vers Marie-Madeleine, c'est une main qui est là comme pour l'étrangler, parce que Pierre ne supporte pas Marie-Madeleine. Parce que dans l'évangile gnostique, justement de Marie-Madeleine, Pierre est jaloux de Marie-Madeleine, parce que c'est à Marie-Madeleine que Jésus confie l'Église. C'est elle la chef de l'Église. D'ailleurs, si vous regardez bien ce brave Pierre, qu'est-ce qu'il a ici? Un couteau. Oh, vilain Pierre! Il tient un couteau dans la main. Bon, d'ailleurs, certains vont remarquer, pendant longtemps, on a dit que c'était une main sans personne. Une main sans personnage, parce que c'est une posture qui est quasiment impossible à faire. Quelque chose de mystérieux là-dedans. Donc, il y a un couteau, et on voit Pierre qui est menaçant par rapport à Marie-Madeleine. Bon, maintenant, d'autres historiens ont des théories qui sont différentes, évidemment, qui vont dire qu'il s'agit bien de Jean aussi, et que Pierre avait été proche de Jean, et s'il lui met la main comme ça, c'est pour dire, hey, parce que là, dans la scène, ce serait au moment précis où Jésus dit, il y en a un qui va me trahir, et Pierre est en train de dire à Jean, dis-nous qui c'est, que je lui règle son compte. Ça ressemblerait plus à Pierre, ça, non? Enfin, voilà. Donc, c'est avec des petits détails comme ça que toute l'histoire est basée. Et puis, on fait toute une affaire avec ça. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il y a d'autres... quelqu'un disait ce personnage féminin. En fait, d'autres vont dire non, c'est pas Marie-Madeleine. C'était en fait le petit ami de Léonardo de Vinci qui, comme il est homosexuel, il représente son petit ami. Je veux dire, c'est encore une théorie tirée par les cheveux, parce que il y a rien qui dit ça. Puis pourquoi il dirait, bon, comme c'est son petit ami, puis qu'il l'aime bien, il a voulu le mettre à côté de Jésus pour l'honorer, quoi, vous voyez, juste à sa droite, quoi. Maintenant, après, il y en a qui partent de l'évangile de Jean et qui vont dire, dans l'évangile de Jean, il est question du disciple que Jésus aimait. Et le disciple que Jésus aimait, c'est Marie-Madeleine. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut lire l'évangile de Jean. Et puis plusieurs disent que bon, ben, il y a eu d'autres tableaux qui représentent aussi Jean sous des traits efféminés, donc qui reconnaissent pour eux, c'est clair, c'est Marie-Madeleine qui est présentée là dans ces différents tableaux, à savoir celui d'un certain, une autre scène présentée par Juan de Joannès. Je ne sais pas si vous connaissez ça, je ne suis pas un expert en histoire de l'art, où on présente représente Marie-Madeleine aux côtés de Jésus. Maintenant, cette Marie-Madeleine, qu'est-elle devenue? Certains diront qu'après la mort de Jésus, Marie-Madeleine est allée en France. C'est bien ça. Elle va en France et son bateau arrive à Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est là où les gitans ont l'habitude de se retrouver. Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est à côté de Marseille. Et Marie-Madeleine serait arrivée là. Mais l'histoire dit aussi que Marie-Madeleine serait aussi arrivée en France avec le corps de Jésus. Alors j'y perds mon latin, moi. Si Jésus est ressuscité, comment est-ce que Marie-Madeleine peut amener son corps? Et vous comprenez que dans toutes ces légendes, eh bien, on ne croit pas dans la résurrection de Jésus. Et pour eux, c'est clair, Jésus est mort, c'est un homme, et Marie-Madeleine amène le corps du mort, ou cache le corps pour faire croire à sa résurrection, et l'emmène jusqu'en Gaule, où là, elle arrive à Sainte-Marie de la Mer. Il y avait un petit détail intéressant qu'il faut dire à Romaric, parce que c'est important. Marie-Madeleine, quand elle arrivait en France, s'est dépêchée d'aller évangéliser les Marseillais. C'est ce que nous dit la légende. Elle est allée évangéliser les Marseillais, et après, elle est allée dans une grotte de la Sainte-Baume, la Baume à Marseille, où elle a vécu en ermite pendant 30 ans dans la Sainte-Baume. Et puis, il y a encore quelques chapelles qui sont en l'honneur de Marie-Madeleine, d'ailleurs. Je me souvenais, quand j'étais à Toulon, qu'il y avait un rassemblement qui avait lieu à la Sainte-Baume en l'honneur de Marie-Madeleine. Je me demandais pourquoi il y avait une Marie-Madeleine par là-bas. Ben, c'est à cause de cette légende qui dit que Marie-Madeleine est passée par là-bas. Notez bien aussi qu'il y a d'autres traditions, selon la tradition de l'Église catholique, et puis qui est avérée aussi par d'autres documents, Marie-Madeleine serait plutôt morte à Éphèse. Alors vous voyez, tout le monde se dispute la propriété Marie-Madeleine. Pour certains, elle est morte à Éphèse, et elle était à Éphèse avec la Marie, mère de Jésus, et puis Jean, qui prenait soin de Marie, mère de Jésus, puisqu'au pied de la croix, Jésus a confié sa mère au disciple Jean, et Marie-Madeleine serait avec eux, et serait morte donc à Éphèse. Puis pour d'autres, elle serait morte non, quelque part en France. J'ai quelque part en France, parce que ça a fait toute une affaire, cette affaire-là. Pour certains, elle serait morte à Vézelay, pour d'autres, elle serait morte à Saint-Maximin, et même au Moyen-Âge, il y a eu une petite guerre entre ces deux villages, en disant « Non, c'est nous qui avons la vraie », alors chacun montrait le tombeau, chacun vérifiait un petit peu les ossements qu'il pouvait y avoir là-dedans, puis finalement, il y a un pape qui a dû trancher en disant « C'est Vézelay », et puis Saint-Maximin a perdu de ça. Ah non, c'est le contraire, c'est Vézelay qui a perdu, et c'est Saint-Maximin qui a hérité des reliques de Marie-Madeleine. Dans l'histoire de Dan Brown, tout commence avec une histoire un peu mystérieuse qui s'est déroulée à côté de Carcassonne, c'est encore dans le sud de la France, à Rennes-le-Château. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rennes-le-Château, si vous avez lu ou entendu parler du Code da Vinci. Tout a commencé là où il y a eu au 19e siècle un abbé, l'abbé Béranger Saunière. Et si vous avez fait attention, Saunière, c'est le nom dans le Code da Vinci du directeur du musée, là. Donc c'est évidemment une allusion à cet abbé. L'abbé Saunière, au XIXe siècle, a commencé à faire de grands travaux dans sa petite église. Et puis ça fait tout un mystère parce qu'on s'est dit, mais où est-ce qu'il a trouvé tout cet argent? Et alors après, il y a eu toutes sortes de fables, toutes sortes d'histoires. Et on est allé jusqu'à dire, il a trouvé un trésor. Alors certains diront, il a trouvé le trésor des Templiers. Vous savez, tout le monde trouve le trésor des Templiers. C'est le trésor que tout le monde veut trouver. Je vais dire un peu plus, on pourrait faire une rumeur comme quoi il est à Drummondville, ce fameux trésor des Templiers. Je pense que ça marcherait peut-être. Non? Non, en faisant quelques documents. En fait, cet abbé Saunière a eu beaucoup d'argent tout d'un coup et ça a mis tout un mystère. Mais on allait jusqu'à dire ce trésor, c'était pas seulement un trésor au niveau de l'argent, c'était aussi un secret. Et certains vont dire le secret que l'abbé Saunière a trouvé, c'était justement les documents qui prouvent que Marie-Madeleine est de la descendance, enfin, est l'épouse de Jésus et les documents qui amènent toute la descendance du Christ. Et alors, cet abbé aurait peut-être même fait chanter l'Église catholique en disant « Donnez-moi de l'argent et puis je ne révèle pas le secret ». Mais c'est le même principe qu'on retrouve dans le Code da Vinci avec le prieuré de Sion qui protège justement cette information secrète. Et tout est parti de là. À partir de cette histoire de l'abbé Saunière et de tout l'engouement qu'il pouvait y avoir autour de Rennes-le-Château, parce que dans ce petit village, il y a une église consacrée à Marie-Madeleine, il y a une tour du château Magdala qui est consacrée à Marie-Madeleine, il y a toutes sortes de références à Marie-Madeleine. Eh bien, à partir de là, des Anglais sont passés dans cette ville, ont enquêté, et puis ont écrit un livre qui s'appelle « L'énigme sacrée ». Et c'est à partir de ce livre que Dan Brown va construire toute sa thèse concernant la Marie, épouse de Jésus, et puis toute cette histoire-là. Maintenant, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu un procès, si vous avez entendu parler de ça. Dan Brown a eu un procès pour plagiat à cause de ce livre en disant « Mais hé, c'est notre histoire, et toi tu la reprends ». Bon, finalement, dans le procès, on lui a pas tenu rigueur. On dit que l'histoire appartient à tout le monde et donc il n'a pas eu besoin de se rétracter. Mais d'ailleurs, dans le livre du Code da Vinci, il fait référence à un livre important de grande révélation, et c'est ce livre-là. Maintenant, encore plus fort, vous allez dire que c'est possible d'aller encore plus fort. Encore plus fort, il y en a qui vont jusqu'à dire, mais c'est évident que Jésus était marié. N'est-ce pas? Non? Pour eux, c'était évident que Jésus était marié, parce que dans le contexte juif, c'était quand quelqu'un était adolescent, on le mariait forcément. Pouvait pas rester célibataire. Et dans la coutume juive, il nous a dit, les juifs d'Antiquité, mais il fallait qu'ils se marient. D'ailleurs, pour eux, c'était un crime, selon la loi de Moïse, de ne pas se marier. Ah bon? Pourtant, on voit certains prophètes, Jérémie, qui n'est pas marié, et puis d'autres dans la Bible. Et il a dit, sauf ceux qui sont les nazirs. Les nazirs étaient des ascètes qui avaient fait un vœu. Nazir. D'ailleurs, plusieurs vont dire, quand il est question de Jésus, le Nazaréen, d'autres vont dire, c'était peut-être Jésus le Naziréen, celui qui avait fait un vœu, celui qui s'était consacré à l'Éternel. En tout cas, bon, première démonstration n'est pas convaincante. La deuxième est de dire, Jésus était appelé rabbi, donc il était rabbin. J'allais dire, le rabbi ne fait pas le rabbin, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce qu'il est appelé rabbi qu'il est rabbin. D'ailleurs, quand Nicodème vient le voir et qu'il l'appelle maître, Jésus lui dit, c'est toi qui es le docteur de la loi. Jésus ne se présente pas comme un docteur de la loi. Les autres l'ont reconnu comme étant un maître. Mais Jésus n'a pas fait l'école rabbinique. Parce que, en ce temps-là, évidemment, celui qui enseigne, celui qui est rabbin, doit obligatoirement être marié. Du moins, c'est ce que nous disent les historiens. Maintenant, troisièmement, ils disent, comme Jésus est prétendant au trône d'Israël et qu'il est là comme étant le roi d'Israël, il lui faut une reine. Oui, mais Jésus n'est pas venu pour gouverner Israël à la manière des hommes. Oui, les hommes ont voulu faire de lui un roi, ont voulu dire « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel » et ont voulu l'introniser et dire « Maintenant, tu vas être notre roi ». Mais Jésus est venu pour régner d'une autre manière. Il n'avait pas besoin de règne. Enfin, son épouse nous dit, le Nouveau Testament, c'est l'Église, c'est pas Marie-Madeleine. Et là encore plus fort, il va dire, en fait, Jésus, sa première épouse, c'était pas Marie-Madeleine, ça c'est sa deuxième. Il était bigame. La première épouse de Jésus, c'était Marie, sœur de Marthe et de Lazare. C'est pour ça que Jésus se trouvait souvent par là-bas. Mais bon, ils vont jusqu'à dire que quand Lazare ressuscite, en fait, ressusciter, ça veut simplement dire que Jésus l'initie et lui ouvre les yeux à la vérité. Comprenez que quand on commence à lire l'évangile de cette manière-là, on peut finir par dire n'importe quoi. Et donc jusqu'à dire que si Marie est la première épouse de Jésus, pour eux, Marie-Madeleine est donc l'épouse mystique. C'est comme ça qu'ils l'annoncent de Jésus. Ils vont même jusqu'à le prouver. Le mariage de Jésus, c'est dans l'évangile. Les noces de Cana. Non? Alors, c'est ce que vont dire ceux qui pensent être sérieux, en disant, Jésus s'est marié. Regardez, il était au mariage, aux noces de Cana. C'est même là qu'il a multiplié, qu'il a changé l'eau en vin pour son propre mariage. Mais enfin, le texte ne nous dit pas que c'est le mariage de Jésus. D'ailleurs, ce qui est un peu surprenant, c'est que dans cette même théorie, et on en parlera dimanche soir prochain, on nous dit la Bible est trafiquée. Les textes que nous avons sont trafiqués. Et ils ont été trafiqués pour faire en sorte que l'on ne sache pas que Jésus était marié avec Marie-Madeleine. Mais alors, s'ils étaient trafiqués pour pas qu'on sache que Jésus était marié avec Marie-Madeleine, pourquoi est-ce qu'on aurait mis le mariage de Jésus avec Marie-Madeleine en plein début de l'évangile de Jean? Vous me suivez? Il y a des incohérences comme ça. Je parle d'une manière intellectuelle là, au début. Pour vous montrer que même si vous faites juste une démarche intellectuelle, il y a des incohérences. Dans cette même démarche intellectuelle, c'est de dire, mais si c'est Marie-Madeleine qui est là, à la droite de Jésus, moi, la question que je me pose, c'est, et Jean, il est où? Allô? Il n'est pas important comme personnage, Jean? Si c'est pas Jean qui est là, assis à la droite de Jésus, Il est où, Jean, quand même, Léonard, tu vas pas nous enlever Jean. Enlève Judas, si tu veux, mais Jean, il est important. Vous me suivez? Il y a des incohérences comme ça tout au long de cette histoire concernant Marie-Madeleine. Maintenant, ce qui fait aussi le succès de cette histoire-là, c'est tout l'aspect féministe. Attention, mesdames, je m'arme, je me protège, je ne veux pas prendre des coups. Comprenez qu'on est dans une société où on défend le droit de la femme. Enfin, si on y réfléchit bien, ça fait que quelques années que la femme a le droit de voter, même au Canada. Ça fait que quelques années qu'il y a eu une évolution dans la mentalité concernant la femme. Et on a tendance à dire, oui, mais l'Église a toujours rabroué, a toujours réduit, a toujours rabaissé la femme. Comprenez qu'il s'agit ici de l'Église historique. Mais est-ce que ça voulait dire que c'était le message de Jésus? Certains vont dire justement, Jésus était marié avec Marie-Madeleine et ça déplaisait beaucoup à l'Église. Et donc l'Église a fait un évangile de telle manière à ce que les femmes ne puissent plus avoir de place. Mais en fait, c'est lire bien mal l'évangile. Parce qu'au contraire, même l'évangile, les évangiles que nous avons actuellement, Matthieu, Marc, Luc, Jean, surtout Luc et Jean aussi, nous montrent que la place prépondérante des femmes. Regardez dans Jean chapitre 4. Jésus est là avec une femme samaritaine. Jésus, assis, fatigué, assis au bord du puits, s'entretient avec une femme. Comprenez qu'en ce temps-là, un homme ne parle pas à une femme. C'était la conception de la société. D'autant plus, un juif ne parle pas à un samaritain. Combien moins à une samaritaine. D'ailleurs, elle-même le fait remarquer à Jésus. Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine? Et voyez-vous déjà, cette histoire de Jean chapitre 4 a de quoi choquer les contemporains de Jésus et de dire, mais c'est quoi cette affaire? Jésus qui parle aux femmes, il n'est pas comme les autres celui-là. Jésus ne considère pas la femme de la même manière que les autres est considérée. Et voyez-vous, il ne faut pas faire un amalgame. Ce n'est pas parce qu'en ce temps-là, dans le judaïsme, dans les religions de l'époque, la femme n'avait pas de rôle et était là comme mise à part. D'ailleurs, certains diront que les juifs se répétaient chaque matin, « Je te loue, Seigneur, parce que je ne suis pas une femme. » Non? Et comprenez que pendant des siècles, la femme a été mal considérée, mais Jésus, lui, a eu un tout autre message. Il parle à cette femme. Il lui annonce la bonne nouvelle. Il lui annonce une révélation extraordinaire. Cette femme dit, je sais qu'un Messie devait venir. Et Jésus lui dit, je le suis. C'est moi qui te parle. Si tu connaissais celui qui te demande, tu lui aurais toi-même demandé, mais qui es-tu? Et Jésus se révèle à elle comme étant le Messie. Je vois que tu es prophète, enfin, je mets quelques bris. Finalement, cette femme réalise qui est Jésus. Et cette femme devient prédicatrice de l'Évangile, proclamatrice de l'Évangile. Elle va dans son village et proclame à haute voix, « Hé, j'ai rencontré Jésus !» Attendez, on se souvient bien de l'histoire? Ça commence comment l'histoire? Jésus est avec ses disciples, non? Ils sont en voyage, il arrive avec ses disciples. Jésus est fatigué, il reste assis au bord du puits. Et que font les disciples? Ils vont au village chercher à manger. Pendant ce temps, Jésus parle à cette femme. Mais pendant que les disciples sont au village chercher à manger, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils annoncent l'Évangile? Est-ce qu'ils proclament le royaume de Dieu? Est-ce qu'ils parlent de Jésus? Même pas. C'est cette femme qui va retourner au village. Les disciples étaient déjà passés par là, mais ce n'est pas eux qui vont amener la bonne nouvelle du salut à tout ce village. C'est cette femme qui va venir dire à tout ce village, « J'ai rencontré le Christ. Il m'a dit tout ce que j'étais, tout ce que j'ai fait. C'est lui le Messie. » Tout le village va venir vers Jésus. Ils vont le découvrir, ils vont le connaître. Ils vont demander à Jésus de rester là. Il va rester là 3 jours. Et puis, toute cette ville, tout ce village va connaître et se tourner vers Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a parlé à une femme. Et parce qu'une femme a été proclamatrice. Et comprenez que ça, c'est révolutionnaire pour l'époque. Il y a d'autres passages où on voit Jésus en présence de femmes. Et peut-être ce qui est le plus remarquable, pour aller plus vite, c'est le témoignage de sa résurrection. Jésus avait annoncé qu'il mourrait, qu'il serait crucifié. Mais il avait dit aussi, le troisième jour, je ressusciterai. Et le troisième jour, Jésus ressuscite. Les femmes vont au tombeau et la pierre est roulée. Où est Jésus ? Jésus se montre à ses femmes, dont Marie-Madeleine, selon Luc 24 et puis Matthieu aussi. Jésus se montre à ses femmes. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire ? Les premières à avoir vu Jésus ressuscité, ce n'est pas des hommes, c'est des femmes, messieurs. Pourquoi des femmes ? Parce qu'elles étaient les seules capables à croire. Ouais, on va rétablir la vérité. Jésus s'adresse à des femmes. Il se révèle à des femmes. Les premiers disciples, je peux dire comme ça, à avoir vu Jésus ressuscité, c'est même pas les 12, c'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est pas Jacques, c'est une femme, c'est plusieurs femmes. Mais notez bien que quand Jésus a été crucifié, tous l'ont abandonné. Comme Jésus l'avait prophétisé, on frappe le berger et les disciples et les brebis sont dispersés. Personne n'a suivi. D'ailleurs, quand Jésus avait dit ces choses, Pierre avait proclamé, « Tous t'abandonneront, Seigneur, mais moi, Pierre que je suis, jamais je t'abandonnerai. » Mais on sait l'histoire, comment il l'a renié 3 fois avant que le coq ne chante. Et Pierre a renié Jésus. Tous les disciples l'ont abandonné. Jean est peut-être celui qui allait le plus loin, puisqu'il était là dans la cour de quelqu'un de sa famille. C'était le souverain sacrificateur, Anne. Et au pied de la croix, où sont les disciples ? Les disciples ne sont pas là. Mais les femmes sont là. On va retrouver Jean plus tard. Jésus va parler, mais les femmes sont là. Quand Joseph d'Arimathée va chercher le corps de Jésus pour venir le mettre au tombeau, les femmes sont là et elles regardent. Et c'est les femmes qui viennent ce jour de résurrection et qui constatent que la pierre est roulée et Jésus leur apparaît comme étant vivant. Et Jésus leur donne une mission, c'est à elles. C'est elles qui ont entendu cette première mission, aller dire aux 12 et aux autres que je suis vivant, que je suis ressuscité. Les femmes y vont et vont rencontrer les 12. Et là, mon cher ami, quand les femmes disent aux 12, il est vivant, les hommes disent, c'est encore des affaires de femmes, ça. Ils ne les croient pas. Vous avez lu l'histoire ? Les hommes ne croient pas les femmes en disant, c'est des histoires de bonnes femmes, c'est ça. Et ils ne croient pas. Jésus fait confiance à ces femmes. Mais les hommes ne leur font pas confiance. Et c'est ça, toute la tragédie de l'histoire. Jésus fait confiance aux femmes. Mais les hommes ne leur ont pas fait confiance. Est-ce que vous me suivez ? Si nous sommes appelés à être à l'exemple de Jésus et à marcher sur les traces de Jésus, on doit mettre notre foi, on doit mettre notre confiance, on doit agir comme Jésus l'a fait. Et briser tout ce qui est préconçu, briser toutes les habitudes, les traditions, toute la force de la société par rapport à certains clichés, et dire Jésus, c'est ce que tu enseignes qui est important. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, la situation est différente, parce qu'on est dans une société maintenant où le rôle de la femme est différent. Et quelque part, certains diront, mais l'Église n'a pas le choix de s'adapter. Il ne s'agit pas que l'Église s'adapte à la société dans laquelle on est. Il s'agit que l'Église mette en pratique et que les chrétiens mettent en pratique le message qui était là dès le commencement. Dès le commencement des évangiles, les femmes ont un rôle prépondérant. D'ailleurs, quand on va dans le livre des Actes des Apôtres, on voit des femmes qui ont un rôle extraordinaire dans l'Église. On voit Dorcas, qui a un rôle extraordinaire et qui est connue, qui a une réputation. Quand l'apôtre Paul arrive à Éphèse et qu'il va au lieu de prière, il rencontre là Lydie, une femme, et plusieurs femmes qui sont en train de prier. Et la première église d'Éphèse va être construite à partir des femmes qui sont là. On voit d'autres passages où les femmes, on voit les diaconesses de Centrée, qui ont été collaboratrices avec l'apôtre Paul. On voit à la fin de Romains, évidemment là ça fait tout un objet de polémique, parce que si on lit bien, alors là je vais vous révéler un scoop, c'est une femme apôtre. Ça se peut-tu ? Une femme apôtre. Ben, lisez bien Romains, tout à la fin de Romains. Je vais mettre un peu de lumière. Alors, on est dans Romains, chapitre 16, verset 7, Romains 16, 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont été même en Christ avant moi. Et là, on a Junias. Alors évidemment, certains vont dire que c'est un homme, mais quand on regarde les écrits grecs, ce mot, c'est sûr, des fois est utilisé pour un homme, mais beaucoup plus souvent utilisé pour une femme que pour un homme. C'est sûr que là, on ne peut pas faire toute une théorie à partir de ça, mais en tout cas, on peut croire qu'une femme avait là un rôle prépondérant dans l'église de Rome. Si vous lisez bien dans la liste, de toute façon, vous verrez qu'il y a d'autres femmes qui sont annoncées. Il y a Marie et il y en a d'autres ainsi dans cette liste. Et quand on lit, en fait, le début de l'église, on voit le rôle des femmes, que ce soit Priscille et Aquila, on voit quel rôle cette femme auprès de son mari, oui d'accord, mais ensemble ont pu avoir jusqu'à même enseigner à Apollos. Apollos qui avait une science, qui avait une connaissance, eh bien c'est un couple. Donc, et dans la liste, je ne sais pas pourquoi, mais les dames le sauront peut-être me répondre, il n'est pas dit monsieur et madame, il est dit madame et monsieur. Il n'est pas dit Aquila et Priscille, il est dit Priscille et Aquilas. Non ? Vous me suivez ? Pourquoi est-ce qu'on met la femme en premier dans cette liste ? Est-ce qu'elle avait plus de place que son mari ? En ce temps-là, on n'honore pas les femmes. Et on ne met pas la femme en premier pour l'honorer. Et si, c'est pas pour dire que c'est les dames en premier, les hommes ensuite. Si on met Priscille et ensuite Aquila, c'est parce que cette femme avait un rôle prépondérant. Et qu'elle était là, servante de Jésus-Christ et qu'elle était utile dans l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, c'est vrai que l'Église, par la suite, dans les années... On parlait du Moyen-Âge, des années sombres, mais enfin, dans toute l'histoire de l'Église, on voit comment l'Église a diminué le rôle des femmes, c'est vrai. Comment on a même considéré la position de la femme. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes parce que la société évolue, quoique il y a un décalage entre l'Église traditionnelle et la société dans laquelle on est. Mais en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas vivre d'après les traditions, mais d'après ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous montre, et l'apôtre Paul nous le dit, qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et qu'en Christ, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Qu'il n'y a pas d'être supérieur et d'être inférieur. Vous savez, un petit peu comme au temps des premières colonies, au temps des premières croisades, déjà au temps des croisades, on considérait que les Arabes n'avaient pas d'âme, alors on pouvait tuer tous ces infidèles. Ou alors, quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique du Sud, ces Indiens sud-américains, ces autochtones, ce n'étaient pas des âmes. Ils étaient considérés plus comme des animaux qu'autre chose. Vous voyez, toute conception que pouvait avoir l'Église. Et il y avait un décalage, mais Dieu ne voit pas les choses de la même manière. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se laisse avoir, impressionner ou troubler par tout ce qu'on peut raconter. Et la femme dans la Bible, c'est pas la femme du Moyen-Orient aujourd'hui. C'est pas parce que au Pakistan, en Afghanistan ou dans certains pays du Maghreb, eh bien la femme est là derrière un tchador et voilée, et puis une position très stricte et n'a aucune liberté, que la femme de la Bible, c'est ça. C'est vrai que la femme au temps de Jésus est là dans un contexte romain, est là dans un contexte socio-culturel qui limite déjà bien des possibilités, mais Jésus va briser ses tabous, va briser ses barrières, et va même affranchir et libérer. Déjà au temps de l'apôtre Paul, l'esclavage existait. L'esclavage n'a pas été aboli, l'esclavage était là. Mais quand on lit les écrits de l'apôtre Paul, on voit qu'il dit que il dit aux maîtres qui ont des esclaves qui sont chrétiens en disant hey, considérez-les comme des frères, et il n'y a plus homme libre et esclave, on est ensemble. Et de la même manière, en ce qui concerne les relations avec les femmes, Christ va rehausser, réhabiliter. Et c'est vrai que la société changeant, ben aujourd'hui les choses sont différentes. Maintenant, notez bien aussi qu'il faut garder le bon ordre des choses. Je veux dire par là que ce n'est pas parce que la société dans laquelle on est va jusqu'à accepter le mariage des conjoints de même sexe qu'il faut qu'on évolue jusque-là. Nous, notre ligne de conduite, c'est ce que la Bible nous enseigne. Notre ligne de conduite, c'est ce que Jésus nous enseigne. Ce n'est pas ce que l'Église nous enseigne. Ce n'est pas ce que la tradition nous enseigne. Ce n'est pas ce que l'histoire nous enseigne. Ce n'est pas ce qu'un code ou Léonard da Vinci peut nous enseigner. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et peut-être que le plus grand tort qu'ont les détracteurs ou ceux qui vont applaudir dès demain l'histoire du code da Vinci, le plus grand tort qu'ils peuvent avoir, c'est de ne pas connaître la Bible. Et c'est facile de dire, oui, le code da Vinci a raison, tout ce que dit l'Église c'est faux, tout ce que dit la Bible c'est faux, mais c'est quoi ce que dit la Bible? Eh bien, c'est ce que l'Église a toujours dit. Il y a une différence entre ce que l'histoire a fait. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des guerres de religion que Jésus a voulu ça. Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'Inquisition, parce qu'il y a eu toutes sortes d'affaires, que ça a été voulu par notre Seigneur. Comprenez que le message de l'Évangile, c'est un message qui est pur, c'est un message qui est vrai. C'est un message aujourd'hui qui éclaire, qui sauve, qui transforme et qui libère. Et que ceux qui vont dire, oui, mais la Bible, comme dit le Code da Vinci, on en parlera davantage dimanche prochain, ce fameux historien de la reine d'Angleterre, enfin, le rôle de ce personnage-là dans ce roman, va dire, de toute façon, la Bible, c'est un livre trafiqué qui n'a cessé d'évoluer d'année en année, et c'est Constantin, en l'an 300 et quelques, qui a trafiqué la Bible pour justement faire une religion comme il voulait, en mettant les femmes de côté. Si c'est ce que vous pensez de la Bible, si c'est ce que vous croyez de la Bible, c'est ce que vous ne connaissez pas le message de l'Évangile. Et on peut acquiescer à ces choses-là si on ne connaît pas. On en parlera dimanche prochain et on verra que c'est vrai, que la Bible est digne de confiance et que ce message est un message qui libère. Et Jésus pouvait dire, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Voyez-vous, la parole de Dieu, cette parole faite chair, cette parole est une parole qui donne la vie, une parole qui est esprit et vie. Non pas une lettre qui tue, non pas une parole là d'universitaire, une parole poussiéreuse, une parole mystérieuse, une parole qu'on ne comprend pas, mais une parole qui éclaire, une parole qui donne la vie, une parole qui rafraîchit, une parole qui nourrit, une parole qui fait du bien, une parole qui console, une parole qui relève, une parole qui transforme. Ça, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile que je connais. Maintenant, il y a toutes sortes de légendes. Il y a toutes sortes d'affaires, il y a toutes sortes de, vous savez, il y a toutes sortes de gens qui croient n'importe quoi. Non ? C'est pas parce que toutes sortes de gens croient n'importe quoi que le message de la Bible est faux. C'est pas parce que toutes sortes de gens croient toutes sortes d'affaires, bon, c'est leur droit de croire dans toutes sortes de croyances. Mais c'est pas parce qu'ils vont croire dans toutes sortes de choses qui vont même peut-être quelquefois contredire le message de la Bible que la Bible est fausse. Vous me suivez? Mais qu'est-ce qui prouve que la Bible est vraie? Qu'est-ce qui prouve que ce message est vrai et que finalement il n'y a pas d'erreur là-dedans? Ben, je vais répondre tout simplement, vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, je vais tout simplement parce que ça marche. Parce que que ça vous suffit comme réponse? Parce que l'évangile, ça marche. Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Je veux dire par là que c'est pas de la religion, c'est pas de l'histoire, c'est pas de l'histoire de l'art, c'est pas de dire on va étudier un texte, voilà ce que Jean a pu écrire en son temps. Non, c'est une parole qui donne la vie, c'est une parole qui éclaire, c'est une parole qui réveille, c'est une parole qui ressuscite, c'est une parole qui fait du bien. Combien dans ce lieu peuvent dire, moi je me souviens, quand j'ai lu la Bible, et quand je lis la Bible, ce n'est pas un livre comme les autres que je lis, c'est une parole qui vient droit à mon cœur. Combien peuvent dire, ce soir c'est vrai, j'étais dans telle situation, j'avais telle question, j'avais tel souci, tel problème, et en lisant la Bible, c'est comme si Dieu me parlait directement. La Bible, ce n'est pas un livre comme les autres. La Bible est plus lue que le Code da Vinci. Heureusement, c'est le livre le plus lu au monde. Le plus lu, le plus traduit, le plus répandu au monde. Et tout ça à travers les siècles. Et si on regarde l'histoire de l'humanité, le Code da Vinci, ce n'est pas le premier livre qui a essayé de détruire la Bible et de nuire à son message. Il y a eu toutes sortes d'écrivains. Quelqu'un faisait référence il y a quelque temps à Nostradamus. Je ne me souviens pas trop de ça, mais il semblerait qu'au Québec, quand il y a eu un film sur Nostradamus qui est sorti, ça fait toute une affaire, mais aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Et laissez-moi vous dire que quand vous parlerez du Code da Vinci aux plus jeunes dans quelques années, ils vont dire, c'est quoi cette affaire? Et quand vous parlerez de la Bible, elle sera toujours là. Il y a eu des siècles, il y a eu des années où on a essayé de brûler la Bible, où on a voulu détruire la Bible, où on a voulu salir, où on a voulu rejeter ce message-là. Mais elle est toujours là, parce que Dieu la protège. On en parlera dimanche prochain, mais laissez-moi vous dire que ce livre n'est pas un livre comme les autres. C'est la parole de Dieu. Et peut-être si vous n'en êtes pas convaincu, je vais vous mettre au défi simplement de lire la Bible. Il y a beaucoup de gens qui, en entendant parler du Code da Vinci, ont dit, ben, je vais le lire, je veux voir, je veux savoir. Si vraiment vous cherchez la vérité, si vraiment vous voulez savoir, lisez la Bible. Lisez l'histoire de Jésus, lisez les évangiles. Et vous verrez au travers de ces évangiles qu'il n'y a pas de misogynie, que la femme n'est pas rejetée dans l'évangile, bien au contraire, qu'elle est honorée et qu'il y a quelque chose pour chacun d'entre nous. Peut-être quelqu'un, je vais conclure avec ça, peut-être quelqu'un était justement dans cette situation en disant, mais moi je me sens comme rejeté, je me sens comme mis à part, je me sens comme indigne et incapable de faire quoi que ce soit pour Dieu. Les femmes, au temps de Jésus, se sentaient comme ça, rejetées par la société, rejetées par la religion, n'ayant aucun pouvoir, aucun droit. Mais Jésus les a élevées, les a relevées et leur a donné une mission. Elle leur a confié une mission tellement importante, l'annonce de sa résurrection. Et laissez-moi vous dire que vous aussi, s'il y en a ce soir qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes, qui se disent, moi, je ne sers à rien, moi, je suis bon à rien, moi, je ne peux rien faire, moi, tout le monde me méprise et me regarde de haut, laissez-moi vous dire que Jésus, lui, il ne vous regarde pas comme ça et qu'il vous voit différemment et qu'il a un message à vous confier. Un message de vie. Il a une mission pour vous. Et il veut vous servir de vous parce qu'il vous voit d'une autre manière. Il vous voit comme étant sa créature, son enfant bien-aimé. Il vous aime. Vous savez, à un moment, Jésus mangeait avec des prostituées. Jésus avait des prostituées, oui. Jésus allait même auprès des prostituées pour leur annoncer un bon message d'amour. Jésus était là auprès des prostituées, auprès des gens de mauvaise vie, auprès des publicains. Et évidemment, les hommes religieux étaient fâchés de cette affaire en disant « Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Viens donc avec nous à la synagogue, dans le temple, mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là ?» Et Jésus leur raconte une histoire. Elle leur raconte l'histoire d'un berger qui avait des brebis. Est-ce que vous comprenez bien le contexte dans lequel cette histoire est racontée? Pour ces hommes religieux, Jésus est là avec des vauriens, avec des prostituées, avec des gens misérables qu'on ne veut pas même regarder. Et Jésus dit, pour moi, ce sont des brebis. C'est joli une brebis. C'est gentil une brebis. C'est doux une brebis. C'est blanc une brebis. De la laine, c'est pur. Voyez-vous, la société méprisait ces gens. Et Jésus dit, ce sont des brebis perdues qui ont besoin d'un bon berger. Ne laissez pas les autres vous mépriser et vous effraser avec toutes sortes de mauvaises images que vous pouvez avoir de vous-même. Jésus vous regarde comme une brebis. Peut-être une brebis perdue, oui, mais il vient chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il y a une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Invitez les musiciens à venir, on va prier quelques instants. Alléluia. Seigneur, il est bon d'être dans ta présence ce soir encore et nous souvenir que tu nous aimes d'un amour si grand que si pendant des siècles, pendant des années, il y a eu toutes sortes de mensonges, de choses mauvaises, Seigneur, toi, tu vois les choses différemment. Apprends-nous, Seigneur, à aimer comme toi tu aimes, à voir comme toi tu vois. Et si quelqu'un dans ce lieu se sent comme rejeté, méprisé, misérable, se sent comme inconsidéré, qui a un problème d'estime de soi, Seigneur, tu puisses parler à son cœur et lui montrer que tu as une mission, que tu les vois comme des brebis, comme ces femmes qui, au temps de l'Évangile, étaient méprisées. Toi, tu les as honorées. Seigneur, tu puisses relever la tête de celui qui est courbattu ce soir. Tu puisses restaurer, visiter, venir guérir. Seigneur, que le malheureux trouve en toi du réconfort et que ta parole puisse venir toucher les cœurs. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te connaissent mal, puisses-tu te révéler à leur cœur au travers de la Bible et que dans cette lecture de l'Évangile, ils puissent te rencontrer, toi, le seul vrai Dieu, et que ton nom seul en soit glorifié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait juste finir avec ce chant? Seigneur, grâce m'a pris tel que j'étais. J'étais sans valeur, je comptais pas pour les autres. Mais pour toi, je suis une perle de prix. Qu'il est bon, Seigneur, de savoir que nous avons de la valeur à tes yeux ce soir. Alléluia.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.